Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 23 juillet. Le dîner des sommets organisé en 2022 n'aurait servi que les ambitions et intérêts personnels de Laurent Wauquiez, selon le groupe socialiste à la région. La publication de la liste des invités de 2022 ne suffit pas à apaiser les tensions entre Wauquiez et son opposition. Drame hier à Miribel-Jonage, avec une noyade, un enfant de 9 ans a également été percuté par un bus à Rieux-la-Pape. Cet enfant a été grièvement blessé. Créée en 2021, la start-up lyonnaise Fredo développe un logiciel pour gérer des flottes de vélos partagés, en quelque sorte une alternative aux Vélov, Vélib et autres Bicloo déployés dans des grandes villes comme Lyon, Paris ou Nantes. Pour cette version light, pas d'infrastructure coûteuse, mais uniquement des anneaux d'attache et un logiciel performant. Notre invité pour en parler dans ce quart d'heure lyonnais, Thomas Randolph, cofondateur de Fredo.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le dîner des sommets organisé en 2022 n'aurait servi que les ambitions et intérêts personnels de Laurent Wauquiez. C'est ce qu'estime en tout cas le groupe socialiste à la région. La publication subite de la liste des invités au dîner des sommets de 2022 ne suffit pas à apaiser les tensions entre Laurent Wauquiez et son opposition à la région. Que ces mondanités soient intégralement financées aux frais du contribuable dans le plus grand secret et dans une opacité budgétaire totale est non seulement déontologiquement scandaleux mais aussi très douteux sur le plan de la légalité, estiment les socialistes. Le dîner des sommets aurait coûté aux contribuables quelques 100 000 euros pour 91 invités. Dans le viseur du parquet national financier, Laurent Wauquiez devra rendre des comptes aux Auvergnats et Rhône-Alpins, concluent les socialistes, écologistes et démocrates. Laurent Wauquiez, élu le 7 juillet dernier, député de Haute-Loire, devrait désigner dans les prochaines semaines son successeur à la tête du conseil régional. Le drame hier à Miribel-Jonage, un adolescent de 16 ans est mort noyé au plan d'eau. Malgré l'intervention des sauveteurs du parc puis des pompiers, il n'a pu être réanimé. L'accident s'est produit sur l'une des 4 plages surveillées du parc. Le jeune garçon s'est trouvé en difficulté et a coulé brusquement. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de cet accident. Un enfant de 9 ans domicilié à Rieux-la-Pape a été grièvement blessé hier après-midi. Il a été percuté par un bus de la ligne C5 sur l'avenue de l'Europe. L'accident a eu lieu dans le quartier des Sommeils au moment où il traversait la voie accompagné d'un camarade. Blessé au niveau du bassin, il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron. Une enquête a été ouverte. Les différents dépistages menés sur le conducteur se sont révélés négatifs.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Pour les trajets domicile-travail de moins de 5 km à Lyon et sa périphérie, 4 salariés sur 10 prennent la voiture. C'est ce que révèle une enquête de l'INSEE. Les transports en commun représentent 31% des déplacements pour ces distances courtes. Plus généralement, 2/3 des salariés prennent encore la voiture pour aller bosser. 25% privilégient les transports en commun et 11% se déplacent avec des modes de transport doux, trottinette, à pied ou à vélo. Ce choix dépend de plusieurs facteurs, la catégorie socio-professionnelle des salariés, leur distance à parcourir et l'offre de transport en commun près de leur domicile. Les salariés parcourent en moyenne 20 km pour se rendre au travail. L'utilisation des transports en commun est variable selon la localisation des résidences et des lieux de travail. Ainsi, 43% des salariés résidant à Lyon les utilisent pour se rendre au travail, contre 32% pour la voiture. Dans les zones périphériques et moins desservies, 59% des salariés privilégient encore la voiture et jusqu'à 83% dans les zones les plus éloignées. Créé en 2021 par Thomas Randolph et Théo Roussely, la start-up lyonnaise Fredo développe un logiciel pour gérer des flottes de vélos partagées. On en parle dans quelques instants avec notre invité.
Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Bordeaux, Strasbourg, Monaco, Barcelone, Moscou, Shanghai, avec Lyon Demain.
Bonjour Thomas Randolph.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour nous parler de Fredo, fondée en 2021, donc en pleine crise Covid. Une start-up lyonnaise dédiée au vélo et en particulier à la mise en place de flottes de vélos partagées. Dites-nous exactement ce que c'est Fredo.
Oui, effectivement, on a voulu nous penser une solution un petit peu différente qu'on connaît bien ici à Lyon, donc les Vélov, en apportant un service plutôt flexible avec des cadenas connectés qu'on impose sur des flottes de vélos pour simplement partager cette flotte-là au sein d'une collectivité. Et l'idée, c'est qu'on se défausse des infrastructures qui sont parfois lourdes et assez coûteuses à installer et à électrifier en imposant ces cadenas connectés, et l'usager, avec son application, peut déverrouiller les cadenas, faire ses trajets et les restituer dans des zones qui sont bien ciblées.
En clair, vous laissez Vélov agissez de co et vous chargez des plus petites flottes et des plus petits parcs.
Exactement, ouais. L'enjeu pour nous, c'est d'aller cibler des territoires plutôt périurbains, donc des villes de taille moyenne, ou des villes de taille intermédiaire. Avec ces sujets-là, on équipe également des parcs de flotte d'entreprises pour faire du vélo de service, assez simplement, avec le même fonctionnement, une flotte pour 100 collaborateurs, 5 vélos, et chaque collaborateur a son application pour déverrouiller les cadenas, réserver ses vélos et faire ses trajets.
Alors je vois qu'en 3 ans, 40 collectivités et entreprises ont été équipées. Qui s'intéresse à votre solution ? Donnez-vous quelques exemples concrets.
Alors dans la région, on a équipé quelques collectivités, je pense notamment à Vienne-Condrieu Agglomération, qui nous a fait confiance dès nos débuts, donc en 2021. On a aussi la ville d'Évian, Annemasse, aussi pas très loin. On a quelques villes également dans le sud-ouest. Et sur la partie entreprise, on équipe des flottes comme à la SNCF par exemple, comme Vinci prochainement, et comme d'autres, comme Andros aussi, enfin voilà, des acteurs de la région aussi, qui équipent des flottes et ils décident de passer le pas pour une mobilité plus décarbonée pour leurs collaborateurs.
Pourquoi votre solution est-elle simple ? C'est un des arguments que vous mettez en avant en tout cas.
En fait, l'objectif pour nous, ça va être de s'appuyer sur des flottes de vélos parfois existantes. Donc ça nous arrive d'équiper des flottes de vélos qui étaient initialement organisées d'une façon un peu différente de ce qu'on propose avec nos outils. Donc le cadenas a cette faculté à s'adapter à n'importe quel type de vélo, donc à la fois du vélo classique, du vélo assistance électrique, voire même du vélo recyclé. Ça ne ferme absolument aucune porte. Et après, en termes de flexibilité également pour les collectivités, l'enjeu, c'est d'aller définir des zones de restitution qui sont des zones où il y a des arceaux fixes présents pour pouvoir sécuriser les vélos. Et très souvent, dans les collectivités, il y a déjà des arceaux fixes présents et ça tombe bien. Du coup, ça permet de faire, encore une fois, l'équivalent d'un vélo en façon un peu plus frugale pour ces collectivités qui veulent passer le pas de la mobilité.
Parce que tout réside, en fait, si je comprends bien, dans une application et un cadenas, en fait.
Donc l'usager a son application mobile qui lui permet d'identifier les vélos qui sont autour de lui, donc il est géolocalisé. Et une fois qu'il arrive devant un vélo, il va pouvoir déverrouiller le cadenas avec son application, effectuer son paiement, ensuite faire son trajet et après derrière effectivement restituer le vélo. Donc son application lui indique les zones de restitution et une fois qu'il est dans cette zone-là, il peut mettre fin à son trajet et on va pouvoir lui débiter le prix de la course qui est défini par la collectivité en amont. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. En quelques clics, l'usager peut déverrouiller le cadenas, faire son trajet et restituer son vélo.
Ça conjugue en fait, je dirais, l'avantage du free floating sans ses inconvénients, parce que le free floating des vélos, on avait connu ça au départ, et notamment à Lyon, mais les vélos, on les retrouvait un petit peu n'importe où. Là, il y a quand même une obligation de rattacher à un arceau qui est dédié à ça.
Ouais, vous avez tout à fait raison. On aime bien, nous, le terme, je ne sais pas si on l'a inventé, mais en tout cas, on l'utilise, de semi-free floating, effectivement, où à la fois dans notre modèle économique, on travaille main dans la main avec les collectivités, on leur fournit une prestation de service et après elles définissent elles-mêmes la tarification du service. Donc on est vraiment, je dirais, en écran avec la collectivité et l'usager final. Et puis effectivement, à l'usage, on va vraiment définir des zones de stationnement parce qu'on a vu quand même beaucoup de vélos ou de trottinettes dans le Rhône ou dans la Saône assez fréquemment quand il y avait encore ces modèles qui préexistaient sur Lyon avant les années 2020. Donc voilà, on s'est inspiré un petit peu de ça pour pouvoir le ramener sur des territoires, encore une fois, qui n'en avaient pas forcément, qu'ils n'avaient pas forcément imaginé au départ. On en a fait du coup une force pour pouvoir proposer ce type de service.
Et vous avez un moyen de savoir que le vélo a bien accroché à un arceau, qu'il n'est pas juste à côté ou un petit peu plus loin ?
Ouais, tout à fait. Alors, on oblige l'usager à prendre une photo à la fin de son trajet, qui est stockée chez nous et qui est vérifiée par notre support. Et du coup, voilà, ça contraint un petit peu l'usager à jouer le jeu de la restitution du vélo pour bien s'assurer que voilà, le vélo est bien accroché à un point de stationnement fixe. Et aujourd'hui, on a observé vraiment très peu de dégradation sur les flottes qu'on déploie.
Alors quand on dit déploiement très rapide pour une collectivité, ça peut être un délai de combien de temps par exemple ?
Le délai le plus court, je dirais, c'est une quinzaine de jours. Globalement, on envoie des cadenas, les cadenas sont montés et après derrière, on met en place la flotte. Par contre, on suggère aux collectivités de travailler un petit peu le sujet en amont avec nous et nos équipes, notamment pour répondre à des enjeux de communication, parce que quand on lance un nouveau service sur ces collectivités, il faut forcément communiquer auprès de ses habitants pour expliquer comment fonctionne le service et surtout que le service arrive enfin sur le territoire. Donc on a aussi ce rôle-là d'accompagnateur des collectivités pour mettre en place le service. Et ça, très souvent, on préconise un mois ou deux mois avant le lancement de la flotte de pouvoir communiquer. Donc on est en capacité de déployer opérationnellement assez rapidement, mais il faut qu'on travaille avec les collectivités pour qu'en amont du lancement, il y ait un minimum de communication qui soit faite pour faciliter le nombre de trajets.
On n'est pas forcément sur du vélo neuf, c'est-à-dire qu'on peut être aussi sur du réemploi, des vélos par exemple qui peuvent sortir d'ateliers comme on en connaît à Lyon.
Ouais, tout à fait. Ça nous arrive de travailler avec des flottes de vélos effectivement recyclées. On a travaillé quelques sujets, je pense notamment à nos amis de l'atelier d'Audace qui avaient recyclé une flotte de vélos et du coup on les avait récupérés pour les mettre en semi-free floating. Donc on continue de travailler avec des acteurs comme comme des associations aussi pour aller favoriser justement le réemploi des cycles et après derrière les remettre en flotte sur des flottes de vélos en libre service.
Sur l'application, outre le blocage du vélo ou son déblocage, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ?
Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Un historique de trajet pour savoir les trajets qu'on a effectués et après derrière l'objectif pour nous. Également son profil et toutes ses informations, mais c'est une application assez standard, assez facile à prendre en main. L'objectif pour nous, c'est que l'usager passe le moins de temps possible sur son appli pour qu'il profite un maximum du vélo. Et on a bien conscience que l'expérience utilisateur, elle se fait bien sur le vélo et pas dans l'appli. Donc on essaye plutôt aussi de travailler autour de la gestion de la maintenance des flottes, notamment pour pouvoir réparer les vélos dès qu'il y en a le besoin et dès qu'un utilisateur le signale. Et être assez actif là-dessus.
On n'a pas trop insisté là-dessus, mais ça peut être à la fois des vélos électriques, des vélos musculaires, voire des vélos cargo.
Oui, tout à fait. Ouais. On a aussi quelques vélos cargo en flotte, qui est un sujet, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de vélos cargo aujourd'hui qui sont déployés. Et sur le cargo en libre-service, il y a des usages qui sont la ville de Lyon et la métropole de Lyon. On a testé quelques sujets avec le Vélove notamment. Et du coup, on s'en inspire aussi pour proposer ce type de service à nos prospects, à nos partenaires. Donc effectivement, vélo cargo en libre-service, vélo assistance électrique, vélo musculaire, vélo recyclé. Tout y passe, il faut simplement un vélo qui est prêt à accueillir le cadenas et ça fonctionne dans 95% des cas à condition qu'il n'y ait pas une roue trop importante qui empêcherait le montage du cadenas, mais globalement c'est un cadenas assez standard, donc ça passe.
Combien ça coûte pour la collectivité et combien ça coûte aussi pour l'usager ? Tout à l'heure vous avez dit que c'était un petit peu à la volonté de l'entreprise ou de la collectivité publique ?
La collectivité, on l'accompagne du coup dans le dimensionnement de son service et après dans la mise à disposition du service, donc du coup c'est un prix qui est payé de façon mensuelle, on fait des abonnements avec le cadenas, la location des cadenas, la plateforme de gestion, le support utilisateur, etc. qu'on propose aux collectivités. Et le prix va varier en fonction du volume, évidemment, et du temps d'engagement. Et après, derrière, comme vous l'avez dit, côté usager, c'est un prix qui est défini par la collectivité. Pareil, on a aussi force de proposition en fonction des cas d'usage qu'on a déjà déployés et sur lesquels on s'appuie pour aller lui indiquer que c'est intéressant, par exemple, sur un lancement de service, de proposer un prix à gratuit les 15 premières minutes, puis 1 € par tranche de 30 minutes, par exemple, qui est un prix assez incitatif, mais qui permet vraiment de capitaliser dessus pour pouvoir augmenter le nombre d'usagers drastiquement sur les premiers mois.
Quelle est la taille de la flotte de vélos ? Il y a un minimum, il y a un maximum ?
En collectivité, on suggère très fortement aux collectivités quand même d'avoir un minimum de volume. Alors ça dépend aussi des tailles de collectivité, bien évidemment, on peut s'ajuster. Mais très souvent, on est sur des flottes qui peuvent démarrer entre, on va dire, une 10-15 de vélos et qui peuvent monter jusqu'à 50, 70, 80 vélos, peu importe. L'idée, c'est vraiment qu'on dimensionne le service en fonction du nombre d'habitants et de la typologie du territoire. Et aussi un vrai enjeu d'avoir un volume de flotte suffisant pour être suffisamment visible aussi. Ça favorise et ça contribue au développement du service et du coup à sa visibilité. Et plus il y a de vélos dans la rue et plus il y a d'usagers du coup parce qu'ils identifient qu'il y a un service qui est présent. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de travailler là-dessus avec les collectivités. Sur la flotte entreprise, on est encore plus flexible dans le sens où très souvent c'est des tailles de flotte un peu plus restreintes. Donc on est sur des flottes qui varient entre 3, 5, 10, 15, 20 vélos. Ça suffit largement pour pouvoir combler ce besoin et ce manque de moyens côté usager à l'interne dans les entreprises. Ça suffit pour pouvoir répondre à leurs besoins.
Fredo est né à Lyon mais a des ambitions au national voire même à l'international. Où en est votre développement actuellement ?
On commence à explorer des marchés chez nos voisins, notamment en Suisse, en Belgique, en tout cas nos voisins francophone, qui parle la même langue que nous, c'est plus facile pour le support au démarrage. Donc on commence à explorer, il y a des sujets. On sait que la Belgique est assez proactive sur ce terrain-là. On vous donne un exemple sur les flottes de vélos de fonction et d'entreprise donc qui sont attitrées à un collaborateur. En France, on en a 15 000 collaborateurs qui sont équipés avec des lots de fonction. En Belgique, c'est 300 000. En Allemagne, c'est un peu plus d'un million. Donc, il y a un vrai sujet pour nous d'aller explorer ce qui se fait ailleurs aussi pour pouvoir continuer à croître, développer le marché. Et comme on l'a dit, la solution est assez simple à installer. Donc, on peut continuer à créer de l'activité et créer de la croissance depuis nos bureaux à Lyon. En envoyant nos cadenas et en continuant à développer nos outils sur la partie logicielle depuis Lyon. Ça se fait très bien.
Merci Thomas Randolph, cofondateur de Fredo qu'on peut voir au plus près de Lyon, donc à Vienne.
Exactement. Merci beaucoup.
Le parking Musée des Confluences Gerland, passé sous la bannière LPA depuis hier. Il pourra ainsi permettre de répondre aux besoins des visiteurs du Musée des Confluences et de la halte Nigarnier. Ce parking est situé dans le quartier de Gerland, à proximité du pont Raymond Barre, à 6 minutes à pied du musée et à 1 minute à pied de la halte Nigarnier. Ce parking propose 158 places de stationnement pour les voitures et les motos sur un seul niveau. Des travaux vont être réalisés d'ici la fin de l'année pour l'installation d'un ascenseur et ainsi permettre l'accès PMR. Un mot de sport, Johan Leponant a rejoint l'équipe de France de football olympique. Le milieu de l'Olympique Lyonnais va quitter le stage en Autriche pour rejoindre le groupe olympique de Thierry Henry en tant que réserviste. Après Alexandre Lacazette et Ryan Cherki, un troisième joueur de l'OL intègre donc le groupe olympique. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.